J'étais parti.
Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'histoire d'une femme qui s'est rebellée contre 'Ndrangheta, la mafia calabraise au drôle de nom, qui n'en est pas moins l'une des plus puissantes au monde, aujourd'hui peut-être même la plus puissante. La femme, c'est Léa Garofalo, devenue en Italie un symbole de la résistance à la culture mafieuse. Née dans un redoutable clan calabrais, fille, sœur, compagne de boss mafieux, Léa choisit, à la fin des années 90, de collaborer avec la justice italienne et de raconter les exactions et les crimes auxquels elle a assisté depuis le berceau. Pour 'Ndrangheta, la trahison, c'est la transgression ultime. Encore plus de la part des femmes, qui ont traditionnellement, au sein de l'organisation, un rôle de transmission des « valeurs » entre guillemets mafieuses. Ainsi, la jeune mère a passé des années à essayer d'échapper aux représailles de sa famille. Mais la mafia n'oublie jamais. Et en 2009, elle est assassinée par son ex-compagnon et 5 complices. La mission de Léa, sa mission sacrée, extraire sa fille de son milieu, a pourtant été accomplie. Car devenue adulte, Denise, le prénom de la fille, a fait condamner plusieurs membres de sa famille pour l'exécution de sa mère. L'histoire de Léa Garofalo, c'est aussi celle d'un échec des institutions italiennes à lui apporter tout le soutien dont elle avait besoin et à lui sauver la vie. Un échec dont l'État italien a su tirer les leçons tout de même en faisant évoluer la loi sur la protection des témoins. Notre invitée aujourd'hui, Charlotte Moge, maîtresse de conférence en études italiennes à l'Université Jean Moulin de Lyon 3. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec Lina, récit documentaire Héloïse Rambert, coordination Christophe Barrère, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Milan, 19 octobre 2013. Le temps est gris, mais des centaines de bouquets de fleurs et de drapeaux colorés dans la foule viennent réchauffer le ciel de Lombardie. Des drapeaux fuchsia, jaune, orange, les 3 couleurs de la principale association anti-mafia italienne, l'association Libera. Sur chaque drapeau, le beau visage souriant d'une jeune femme à la longue chevelure brune et 3 mots « vedo, sento, parlo »,« je vois, j'entends, je parle » en italien. Ce visage, c'est celui de Léa Garofalo, assassinée 4 ans auparavant, à 35 ans, par son compagnon affilié à la 'Ndrangheta, la mafia calabraise. Sa faute, s'être retournée contre sa famille mafieuse et avoir dénoncé les siens à la justice. Représentants de l'État, associatifs, simples citoyens, tous sont venus nombreux saluer son courage. Le maire de Milan, Giuliano Pisapia, le président de Libera, Luigi Ciotti, et Mario Calabresi, le directeur du journal La Stampa, l'un des principaux quotidiens italiens, porte son cercueil au son de l'Ave Maria de Fabrizio De André, le chanteur italien des rebelles et des exclus. Luigi Ciotti prend la parole sur une scène dressée au milieu de la place.
Léa, tu as suivi la voie de la conscience en brisant le silence des mafias. Le code de l'omerta. Quelquefois, ce code, c'est aussi le nôtre. Parce que le problème, ce ne sont pas les mafias, c'est nous et notre mentalité mafieuse. Les mafias se nourrissent avant tout d'omission. De conscience tiède, habituée, indifférente. Vous qui êtes venus aujourd'hui, vous nous rappelez que le mal n'est pas seulement le fait de qui le commet, mais aussi de celui qui ne voit rien, n'entend rien, ne dit rien et ne fait rien.
Justement, Léa Garofalo n'a jamais été l'une de ces consciences tièdes et indifférentes à la mentalité mafieuse. Elle a pourtant grandi dans un environnement familial pétri de cette mentalité. Bien loin de Milan, en Calabre, dans le sud de l'Italie. Plus précisément, à Petilia Policastro, un bourg montagneux de 9000 âmes. Elle y naît en 1974 dans l'une des familles mafieuses les plus puissantes de la région, au cœur d'une époque particulièrement sanglante, les années 70, marquées en Calabre par ce qu'on appelle la première guerre de 'Ndrangheta, dont le nom emprunte au grec et qui voudrait dire « héroïsme et vertu ». C'est dans cette vue de l'esprit que l'organisation va connaître sa mutation. Elle commence à étendre ses activités au-delà de la région, vers le nord du pays. Évidemment, les opportunités criminelles génèrent des luttes de pouvoir intestines entre clans. C'est peut-être ça, la vertu. Des centaines de personnes sont tuées, dont le père de Léa, Antonio Garofalo. C'est peut-être ça, l'héroïsme, vu du côté mafia. On tue comme on respire. Léa n'a que 9 mois lorsqu'il meurt. À sa mort, c'est son frère, Floriano Garofalo, qui prend la tête des affaires criminelles familiales. Léa grandit à ses côtés. Elle est aussi entourée de sa mère, sa sœur aînée et sa grand-mère paternelle. Une grand-mère qui lui explique que le sang se lave avec le sang. Durant toute son enfance, les vendettas s'enchaînent. Léa apprend malgré elle les codes, la férocité de la mafia. À 9 ans, alors que les petites filles de son âge jouent encore à la poupée, elle doit couvrir son frère, Floriano, qui l'appelle au téléphone pour lui demander de cacher une arme avant une descente de police dans la maison familiale. À 15 ans, elle assiste à l'assassinat d'un ami de la famille. Adolescente, Léa suffoque. Elle rêve d'une autre vie. Peu avant sa mort, elle se confiera à Vincenzo Arando, avocate et vice-présidente de l'association Antimafia Libera.
Elle me disait, mon père a été tué quand j'étais bébé. Mon grand-père et mon oncle ont été tués. J'avais cette image des femmes de ma famille toujours habillées en noir. Nous étions toujours en deuil. Déjà à 15 ans, Léa avait compris que la 'Ndrangheta n'apportait que la mort.
Mon adolescence a été une tragédie. On ne vit pas là-bas, on survit tant bien que mal. On rêve du monde extérieur, qui doit certainement être meilleur que celui-là, parce que il ne peut rien exister de pire, expliquera Léa Garofalo à une magistrate une fois adulte. À 15 ans, elle rencontre un garçon de Petilia Policastro, plus âgé qu'elle de 4 ans. Il s'appelle Carlo Cosco, et elle croit qu'il va lui offrir cette vie meilleure à laquelle elle aspire tant. Mais on n'échappe pas finalement à son milieu, et si facilement. Cosco est lui aussi issu de la mafia calabraise. Et l'apparente histoire d'amour cache une terrible réalité criminelle. Parce que lui voit d'abord cette union comme un moyen de gravir les échelons de 'Ndrangheta grâce à la protection du clan Garofalo. Mais ça, Léa ne le sait pas encore. Lorsque Carlo part pour Milan et lui propose de l'y rejoindre, elle accepte, d'autant qu'il lui promet de se mettre au travail. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il commence une carrière d'aspirant chef mafieux. À Milan, à l'âge de 17 ans, Léa Garofalo donne naissance à une petite fille, Denise. L'enfant devient le centre de son existence au moment où ses rêves de famille normale s'effondrent. Car la jeune femme n'a pas tardé à comprendre où elle avait mis les pieds. Le grand complexe d'immeubles où ils se sont installés avec les frères de Carlo, au 6 de l'avenue du Montello, a beau être à 2 kilomètres du centre-ville, on est bien loin ici du chic milanais. Une odeur âcre prend à la gorge sitôt le grand portail passé. Les balcons menacent de s'effondrer, les fils électriques sont à découvert. L'adresse est en fait le fief du clan Cosco. L'édifice est pourtant une habitation à loyer modéré de la ville de Milan, qui devrait bénéficier donc aux personnes les moins aisées. Mais depuis des décennies, il est occupé impunément par les clans calabrais. Les Cosco ont la mainmise sur 80 logements occupés par plus de 200 personnes. Pour la plupart des immigrés, chinois, albanais, roumains, contraints de payer un loyer directement à l'organisation criminelle. Ici, c'est clair, ils font la loi. Comme l'explique en 2012 Giuseppe Gennari, juge d'instruction au tribunal de Milan.
Le clan avait le contrôle absolu de cet immeuble, d'où il gérait toutes ses affaires illégales. Il dealait de la drogue. Ils y cachaient de la cocaïne qu'ils revendaient au détail. Tout le quartier de la Via Montello vivait sous leur coupe. Dans ce secteur, tout le monde savait qui étaient les Cosco.
Pour Léa, rien n'a changé depuis Petilia Policastro. De nouveau, les menaces, les extorsions, les homicides, le même sentiment d'oppression. La nuit du 7 mai 1996, son compagnon est arrêté dans le cadre d'un important coup de filet de la police milanaise. Denise, qui a à peine 5 ans, assiste à la scène. La décision de Léa Garofalo est prise. Elle ne veut plus de cette vie pour sa fille. Oui, mais se rebeller contre 'Ndrangheta, c'est se rebeller contre les siens. Dans l'organisation, famille de sang et famille mafieuse se confondent. Elle se rend pourtant au parloir de la prison de San Vittore et annonce à Carlo Cosco qu'elle le quitte. Alors il voit rouge. Comment une fille, une sœur et une femme 'ndranghettiste peut-elle décider de sa propre vie ? Cosco l'agresse tellement violemment que la police pénitentiaire doit intervenir. Déterminée, Léa part sans se retourner. Elle s'installe à Bergame avec sa fille Denise et recommence tout, à zéro. Elle demande l'hospitalité chez les sœurs et trouve un travail dans un café. Pendant quelques années, tout semble bien se passer. La jeune femme dira d'ailleurs que Bergame a été le seul endroit où elle a trouvé un peu d'humanité, un peu d'affection. Mais elle a sous-estimé la rage de la famille, de sa famille par alliance, d'abord. Car au fond de sa cellule, Carlo Cosco cultive sa haine et fomente sa vengeance. Le 27 octobre 2011, lors du premier procès d'assises des assassins de Léa, l'un de ses anciens codétenus, Angelo Salvatore, affilié à la mafia, confirme les projets criminels que Cosco nourrissait déjà à l'époque contre elle. Un témoin qui s'adresse à la cour du tribunal de Milan en vidéoconférence et de dos pour ne pas être reconnu.
Carlo Cosco m'a demandé expressément à moi si je pouvais tuer Léa Garofalo et la faire disparaître. J'ai hésité, je lui ai répondu ni oui ni non, parce qu'il y avait un problème. Léa était la sœur de Floriano Garofalo. Et Floriano Garofalo, c'était notre allié. Donc la tuer, ne pas la tuer, ce n'est pas quelque chose que je pouvais décider seul.
Au début des années 2000, les guerres entre clans font rage de nouveau. 'Ndrangheta a des problèmes plus importants à régler que la blessure d'ego de l'un de ses membres. Sans compter que personne ne tient à se mettre à dos Floriano Garofalo, le frère, qui est non seulement un allié, mais un assassin sans pitié. Alors, le projet criminel est reporté. La vendetta est un plan qui se mange froid, et un plat d'ailleurs, plus qu'un plan. Floriano est celui qui exerce le plus de pression sur Léa pour qu'elle aille rendre visite à Carlo Cosco avec leur fille. Il va même jusqu'à la frapper en pleine rue pour qu'elle rentre dans le rang. En mars 2000, il met le feu à sa voiture. Léa Garofalo comprend alors que les menaces ne cesseront pas. Pour couper les ponts avec sa mafieuse de famille et offrir un avenir digne à sa fille, elle doit aller jusqu'au bout. Elle doit aller dénoncer à la police et se mettre sous sa protection. Depuis 1991 et les massacres perpétrés par Cosa Nostra, en Sicile, quand les Corleonesi, les palermitans se livraient une véritable guerre dans les rues en plein jour, l'Italie a créé le statut de collaborateur de justice sous l'impulsion du juge Falcone. Il concerne les criminels mafieux qui décident de raconter la mafia de l'intérieur en échange d'une remise de peine et de la protection de l'État. Les fameux repentis, en somme, même si la repentance morale a souvent peu à voir avec cet accord contractuel. Alors, en 2001, soit un an avant la décision de Léa Garofalo, un autre statut a été prévu par l'État, celui de témoin de justice. À la différence des collaborateurs de justice, celui-ci ou celle-ci n'a jamais commis de crime, mais y a assisté ou en a été victime. C'est donc en cette qualité, en qualité de témoin, que Léa pousse la porte du commissariat de Petilia Policastro le 13 juillet 2002. Salvatore Dolce, procureur antimafia de Catanzaro, chef-lieu de la Calabre, est le premier à recueillir ses déclarations. Il se souvient de sa stupéfaction quand il a compris qui était cette femme de 28 ans qui se présentait spontanément aux forces de police.
J'ai reçu un appel du chef des carabiniers de Petilia Policastro. Il m'a dit, écoutez, vous devez venir tout de suite, c'est urgent.
con urgenza. Abbiamo qui in caserma.
Nous avons Lia Garofalo avec nous ici au commissariat.
Era per noi segno, diciamo, di una.
Évidemment, ce nom pour nous était synonyme d'une histoire mafieuse sans fin. Je crois qu'elle a été la première femme, en tout cas en Calabre, je crois pouvoir dire qu'elle a été la première femme issue d'une famille mafieuse, non pas à se repentir, parce que Lea Garofalo n'a jamais avoué aucun crime. Mais la première à naître dans une famille comme celle-là et à raconter. Ça nous a donné des frissons.
Immédiatement, Salvatore Dolce se rend commissariat de Petilia Policastro. Léa et sa fille sont installées à l'hôtel dans une zone très éloignée de la Calabre. Le procureur commence alors à recueillir ses déclarations. Léa raconte, sans trembler, les vendettas de son enfance, les assassinats, les extorsions, la drogue. Elle s'en remet aux institutions, sûre que la justice sera faite. Dans la même soirée, le 13 juillet 2002, Léa et Denise intègrent le programme de protection. Et leur vie ne sera plus jamais la même.
Ma non ho scelta né un motivo. Il mondo è un tipo irrazionale, fa come vuole, non dà nessuna spiegazione. Mi conviene cogliere il tempo che rimane prima che smetta di bruciare dentro al tuo cuore anche il più piccolo ideale che sta tremando di terrore.
Après avoir parlé au carabinier, Lea Garofalo et sa fille Denise Cosco changent d'identité. Personne ne doit savoir où elle se trouve. Pendant 7 ans, pour des raisons de sécurité, la mère et la fille vont être déplacées dans tout le pays. De Piceno et Fabriano dans les Marches, à Udine dans le Frioul, en passant par Florence, en Toscane, Pérouse, en Lombrie, Campobasso et Boggiano dans le Molise. Malgré toutes les précautions prises, Lea vit dans la peur. A raison. Son ex-compagnon Carlo Cosco l'a très vite soupçonné d'être entré dans un programme de protection. Un soupçon qui, au fil des mois, s'est changé en conviction. Parce que depuis 2002, plus personne ne l'a vu, ni elle, ni sa fille. La soif de vengeance du mafieux est devenue obsessionnelle. « Le 1er décembre 2003, il est libéré de prison. Et il n'a plus qu'un objectif, débusquer sa femme. Rien d'impossible à cela. Il suffit juste de s'organiser un peu. Le 20 novembre 2004, Gennaro Garofalo, un cousin de Léa et grand ami des frères Cosco, se rend à la caserne des carabiniers de Lissone, non loin de Milan, vers 21h. Oh, pas pour prendre son service de nuit, non. Il a bien travaillé dans cette caserne, comme carabinier auxiliaire. Mais il a été remercié 3 jours plus tôt. Devant la cour d'assises de Milan, 7 ans plus tard, il tente de justifier cette visite tardive à son ancien lieu de travail auprès du procureur Marcello Tatangelo.
Une fois, je me souviens, je ne me souviens plus de quand exactement, Floriano Garofalo m'a demandé si je pouvais trouver le nom de sa nièce, la rue où elle habitait. Je lui ai dit que je n'avais pas ce pouvoir, parce que je ne pouvais pas accéder aux ordinateurs. Mais j'avais la nostalgie de mon travail, mes collègues me manquaient. Je suis allé à la caserne pour les saluer, pour manger une pizza, je ne sais plus.
Mais vous aviez dans la poche le nom et la date de naissance de Denise Cosco. Je vous pose donc la question. Vous êtes allé chez les carabiniers par nostalgie ou pour faire une recherche dans la base de données du ministère de l'Intérieur?
Non, je suis allé les voir. Mais comme je devais commander des pizzas, je me souviens, j'ai ouvert mon portefeuille pour trouver le numéro des pizzas. Et j'ai retrouvé ce bout de papier. Et innocemment, sans arrière-pensée, j'ai pris ce papier et j'ai demandé si on pouvait faire cette recherche.
Sachant ses collègues absents ce soir-là, Gennaro Garofalo s'est en fait connecté lui-même à la base de données du ministère de l'Intérieur, après avoir trouvé le mot de passe dans un tiroir qui n'était pas fermé à clé. L'adresse renseignée est située à Perugia, que les Français appellent Pérouse. En février 2005, des hommes de main de Cosco s'y rendent. Il s'agit en fait de l'adresse du commissariat de police. Mais après quelques jours, ils finissent par localiser Léa. Dès le lendemain, paniquée, elle écrit au service central de protection. Et elle est déplacée en urgence avec Denise. Mais peu après, les Cosco découvriront son nouveau lieu de protection à Florence. Pour Léa, les années passées dans le programme de protection sont des années de solitude profonde, qu'elle vit ballottée d'hôtel en hôtel, d'appartement en appartement. Des années où elle se sent en danger constant. En juin 2005, soit 3 ans après son entrée dans le programme, son angoisse monte encore d'un cran lorsque son frère, Floriano, est assassiné. La terreur de la jeune femme devient telle qu'elle ne dort plus sans un couteau sous son oreiller, un supplice. En février 2006, au moment où elle se sent la plus menacée, elle est exclue du programme de protection. Ses déclarations, lui explique-t-on, n'ont pas suffisamment porté leurs fruits, en clair. Elle n'est pas assez utile. Dans les faits, et pour des raisons encore difficilement explicables aujourd'hui, probablement des difficultés d'enquête, des manques de preuves, ces déclarations n'ont encore servi à rien. Commence alors pour Léa une période de grande fébrilité. Elle fait appel de l'exclusion du programme auprès du tribunal administratif et obtient gain de cause, tout de même, et elle est réintégrée. Mais elle est de plus en plus défiante envers les institutions, d'autant qu'elle est empêtrée depuis le début dans un imbroglio administratif qui ne trouvera jamais d'issue. L'État l'a cataloguée collaboratrice et non témoin de justice. Cette confusion la blesse profondément. Elle se sent traitée comme une mafieuse. Démoralisée, amère, Léa quitte d'elle-même le programme quelques mois à peine après avoir bataillé pour y rester. Après tout, qu'a-t-elle gagné à y entrer? Aucun des membres des familles Cosco et Garofalo n'a été inquiété. Non, ils continuent à mener leur vie, alors que la sienne n'est qu'une suite de peur et de solitude. Et c'est même la pauvreté qui l'attend une fois sortie du programme. Car les vivres lui sont coupés par l'État. Ses papiers d'identité de couverture lui seront retirés. Sans eux, impossible de travailler, ou de façon tellement précaire. Alors, Léa demande une nouvelle fois à être réintégrée dans le programme. Mais rien ne change. Et le 28 septembre 2009, à bout, elle adresse une lettre à Giorgio Napolitano, alors président de la République italienne.
Monsieur le président de la République, je suis une jeune mère désespérée, à bout de force mentale et psychologique. Car torturée quotidiennement depuis des années, par l'absence totale de protection appropriée de la part de certains professionnels. Comme mon conseiller juridique actuel, qui se dit prêt à me protéger, mais qui en fait ne répond même pas à mes appels téléphoniques. J'ai perdu mon emploi, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu toute espérance en l'avenir. Mais cela, j'en avais tenu compte. Je savais dans quoi je m'engageais en faisant un tel choix. Mais je me demande encore comment j'ai pu penser qu'une justice pouvait réellement exister en... Et vous savez ce qu'il y a de pire ? Le pire est que je connais déjà le sort qui m'attend. La mort. Une mort par surprise. Inexorable. Indigne. Par cette lettre, je voudrais changer le cours de ma triste histoire. S'il vous plaît, Monsieur le Président, donnez-nous un signe d'espoir. J'ai besoin d'aide. Que quelqu'un nous aide. S'il vous plaît. Une jeune mère désespérée.
On ne sait pas si cette lettre manuscrite de 4 pages a bien été envoyée au président de la République, car elle sera retrouvée dans ses affaires après sa mort et publiée en 2010 par un journal quotidien calabrais, Il Quotidiano della Calabria. Peu après cette publication, le palais présidentiel lui affirmera dans un communiqué officiel n'avoir jamais reçu une telle lettre. Usé par des années de déracinement et d'errance, acculé par les problèmes financiers, ne sachant où aller, la jeune femme de 35 ans se résout à renoncer définitivement à la tutelle de l'État et à retourner en Calabre, oui, avec Denise. Ce n'est pas alors le comportement d'une folle, plaidera 2 ans plus tard le procureur Marcello Tatangelo aux Assises de Milan, mais celui d'une femme qui doit composer avec la réalité. Avant de faire ses bagages, Léa demande à sa sœur de parler à Carlo Cosco et de s'assurer qu'il l'autorise à revenir. Carlo donne son autorisation et sa parole. Il ne leur arrivera rien. Mieux encore, il loue à ses frais pour les 2 femmes une maison à Campobasso pour que Denise puisse y terminer l'année scolaire qu'elle avait commencée. La maison est confortable. Il y a juste un détail. La machine à laver est en panne. Pas d'inquiétude, assure le père. Il va envoyer quelqu'un pour la réparer. Le 5 mai 2009, en guise de plombier, c'est un homme chargé de l'enlever et qui tente de l'étrangler que Cosco envoie. Il faut que Denise, qui n'était pas allée au lycée ce jour-là, le frappe pour qu'il s'en aille. Après cette agression, Léa est tellement terrorisée qu'elle préfère dormir avec sa fille sous une tente en plein cœur de la ville, plutôt que de réintégrer la maison, avant de retourner à Petilia Policastro, où elle vit recluse, derrière une porte blindée. Mais sa précarité est telle qu'elle accepte de rejoindre Carlo à Milan pour discuter avec lui de l'avenir de leur fille, qui veut aller à l'université pour devenir avocate. Quelques jours auparavant, Léa s'est rapprochée de l'association Antimafia Libera pour demander conseil, soutien. Elle a notamment rencontré sa vice-présidente, l'avocate Vicenza Rondo. Celle-ci, très inquiète, lui a fortement déconseillé de se rendre à Milan. Denise et mon assurance vie a tenté de la rassurer, Léa. Si on est ensemble, il ne peut rien m'arriver. C'est ainsi que le 20 novembre 2009, Léa et Denise arrivent à la gare de Milan. Carlo Cosco les accueille, gentil et calme. En réalité, impassible et déterminé après l'échec de l'enlèvement de Campobasso. Le 24 novembre, les 2 femmes sont filmées par les caméras de surveillance en train de marcher côte à côte sur le cours San Pirone. C'est la dernière fois que Léa sera vue en vie. Sur ces mêmes images, on voit Carlo Cosco les récupérer en voiture. Il amène ensuite Denise dîner chez sa tante et reste avec Léa. Lorsque Denise retrouve son père après le dîner vers 21h30, sa mère n'est plus là. Elle est partie, fâchée, lui explique-t-il, parce qu'il ne voulait pas lui prêter assez d'argent. Denise n'en croit pas un mot. Elle comprend immédiatement que sa mère a été éliminée. L'enquête conduit à la mise en examen pour homicide de 6 personnes. Carlo Cosco donc, Massimo Sabatino, le faux dépanneur de machines à laver, Giuseppe Vito Cosco, les frères de Carlo, Rosario Curcio, un cousin, e Carmine Venturino. Le procès s'ouvre le 6 juillet 2011. Denise Cosco, dissimulée derrière un paravent, témoigne contre son père, ses oncles, son cousin, son ex-petit ami et l'agresseur de sa mère. Les avocats de la défense se montrent sans pitié. Léa serait une mère indigne, partir en vacances en Australie en abandonnant sa fille. Et puis, quel meurtre, hein? Aucun corps, aucune arme n'ont été retrouvés. Selon les reconstitutions des magistrats, la jeune femme aurait été tuée puis dissoute dans 50 litres d'acide. Le 30 mars 2012, le jugement tombe, perpétuité pour les 6 accusés. Le tournant de l'affaire a lieu à l'été 2012. Carmine Venturino décide de collaborer en échange d'une remise de peine. Ses déclarations permettent l'ouverture d'un procès en appel le 9 avril 2013. À la barre, il explique avec un grand détachement que Carlo Cosco a emmené Léa dans l'appartement de l'un de ses amis où il l'a étranglée avec l'aide de l'un de ses frères.
On est monté dans l'appartement et quand on a allumé, il y avait le cadavre de Léa Garofalo par terre. Elle était sous un canapé blanc. Elle avait été étranglée avec un lacet vert et un drap autour du cou. D'un côté, je ne sais plus si c'était du côté droit ou gauche, son visage était tout écrasé. Sa bouche aussi. Elle avait pris des coups violents dans le visage.
Avec force détail insoutenable. Il raconte ensuite que le corps de la jeune femme a été mis dans un carton, puis transporté dans un terrain vague à une quinzaine de kilomètres de Milan, avant d'être jeté dans un bidon, arrosé d'essence et brûlé jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Dans une déclaration écrite, il indique le lieu exact de la destruction du cadavre. Les enquêteurs y retrouveront 2800 fragments d'os et des bijoux appartenant à Léa. Carlo Cosco est alors contraint d'avouer l'assassinat. Crâne rasé, visage fermé, avec un air de défi. Il y a alors une rapide déclaration devant la cour.
J'assume la responsabilité de l'homicide de Léa Garofalo. Je tiens à dire que je ne comprends pas pourquoi ma fille Denise est aujourd'hui protégée par l'État. Contre qui doit-elle être protégée ? Moi, je donnerai ma vie pour ma fille. Je mérite sa haine car j'ai tué sa mère. Gare à qui touche à ma fille. Je prie pour obtenir un jour son pardon. Merci.
Cosco nie toute appartenance à 'Ndrangheta et même toute préméditation. À la sortie du tribunal, Vincenza Ronda, vice-présidente de Libera et avocate de Léa et de Denise, annonce que sa jeune cliente veut organiser des funérailles publiques pour sa mère. Ici à Milan, dans la ville qui s'est portée partie civile dans le procès. Le 19 octobre 2013, le jour des funérailles, place Beccaria. Denise, qui n'en est encore à ce jour dans un programme de protection, n'apparaît pas. Mais depuis un lieu tenu secret, par des haut-parleurs, elle se fait entendre avec force.
Bonjour à tous. Merci du fond du cœur d'être venu aujourd'hui. Pour moi, c'est un jour très difficile. Mais la force, c'est toi qui me la donnes. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci de m'avoir donné une vie meilleure. Si tout ça est arrivé, c'est seulement pour mon bien. Et je n'arrêterai jamais de te remercier. Au revoir, maman.
Dix jours après cet hommage public, le 29 octobre 2013, 17 affiliés à 'Ndrangheta sont arrêtés dans plusieurs régions d'Italie, grâce en partie aux révélations décisives de Léa Garofalo. La mort atroce et évitable de Léa a mis en lumière les défaillances profondes de l'État italien dans la protection des témoins de justice. Le procureur au procès, Marcello Tatangelo, parlera d'erreurs grossières à propos de sa première expulsion du programme en 2006. L'État s'est trompé avec Léa. Garofalo admettra publiquement Salvatore Dolce, le premier procureur anti-mafia auquel Léa avait donné sa confiance en 2002. En 2015, Rosy Bindi, présidente de la commission parlementaire anti-mafia, annonce qu'une nouvelle proposition de loi sur les témoins de justice est en préparation et qu'elle sera dédiée à la jeune Calabraise. Elle défend le projet le 30 mars 2017 devant la Chambre des députés.
Aujourd'hui, je crois que nous avons franchi un point important pour la justice de notre pays. Les témoins de justice sont des citoyens normaux qui ont subi les violences de mafia. Cette loi leur donne un statut autonome et une dignité qu'ils méritaient, qu'ils méritent et qu'ils attendent depuis trop longtemps. Le témoin de justice ne peut continuer à subir ce qu'il a subi ces dernières années. Le déracinement, le changement d'identité pour lui et sa famille. Ce ne sont pas eux qui doivent abandonner leur territoire, mais ce sont les mafias. Ce sont elles qui, grâce à leur témoignage, doivent être chassées de là où elles font la loi, tuent, corrompent, font du chantage.
Le 21 décembre 2017, le Sénat italien approuve un texte qui établit une distinction très claire entre la figure du collaborateur et celle du témoin de justice. La loi garantit désormais aux témoins un suivi personnalisé, un soutien économique et un projet de réinsertion professionnelle. Le Sénat leur permet également de continuer à vivre sur leur terre sans les condamner à l'exil. Tout ce qui, en somme, a manqué si cruellement à Léa Garofalo.
D'un tempo che fu, tre cavalieri da Spagna se partiro, dall'Abruzzo a Sicilia passaro, e poi ca in Calabria se fermaro, 21 anni lavoraro sotto terra, per fondare le regole sociali, leggi d'onori di sangue e di guerra, leggi maggiori, minori e criminali. Sti regoli di sangue e d'omertà, da patria figli si li tramandaro, visti sui leggi di la società, leggi così un ta storia d'assaro. Camurra e mafia è società organizzata, 'ndrangheta, camurra e mafia, e cosgarra nuda pietà. Dan c'era nu castello cu tre stanzi, ondi la prima puzzava infamità. Tre cucci sangue da seconda non ci trovai, mentre in da terza nu corpo i società. 'Ndrangheta, camurra e mafia è società organizzata, 'ndrangheta, camurra e mafia, leggi d'onori, leggi d'omertà.
Affaires sensibles sur France Inter.
Aujourd'hui, l'histoire de Léa Garofalo, dont nous parlons avec notre invité maintenant, Charlotte Moge, bonjour.
Bonjour.
Maîtresse de conférence en études italiennes à l'université Jean Moulin, Lyon 3, 12 ans après sa mort. Que représente Léa Garofalo en Italie aujourd'hui, son histoire? On s'en souvient? On en parle?
Alors, on en parle, ça dépend des endroits, particulièrement à Milan, en Lombardie, oui, c'est une figure qui est assez connue, puisque l'organisation, l'association anti-mafia dont vous avez parlé dans le récit, Libera, lui a même intitulé son siège à Milan, mais dans le reste du pays, malheureusement, c'est beaucoup plus à nuancer, même si Marco Tullio Giordana, qui est un réalisateur très connu, lui a dédié une fiction qui a été diffusée sur la RAI en 2015.
L'exil, la fuite du pays, et c'était une solution ou pas? Parce qu'elle a été transbahutée d'une ville à une autre. Est-ce que passer la frontière est un gage de sécurité ou est-ce que les mafias passent les frontières?
Ah ben, les mafias passent les frontières de toute façon, mais surtout, elle a été transbahutée comme tous les repentis, collaborateurs et témoins de justice qui décident de dénoncer. Maintenant, le problème dans le cas de Léa, c'est le manque de protection institutionnelle dont elle a bénéficié vers la fin, où elle en avait particulièrement besoin. Quant à la question de l'expansion des mafias, évidemment, les mafias ne se limitent pas à leur territoire d'origine. Elles se sont implantées depuis des décennies maintenant dans le nord du pays, et y compris à l'étranger.
Et donc à Milan, parce que ça c'est une idée reçue, la mafia c'est le sud. Eh ben non.
Eh ben non, pas du tout. C'est justement une idée reçue, puisque Cosa Nostra, la mafia sicilienne, et la 'Ndrangheta, la mafia donc calabraise, se sont implantées dans le nord du pays, hein, autour de Milan, dans le Piémont, en Ligurie aussi, dès les années 50, hein, à la faveur des premiers mouvements migratoires du miracle économique qu'a connu l'Italie dans l'après-guerre.
Et d'ailleurs, ça nous envoie... Je disais tout à l'heure, elle aurait pu quitter le pays, ça aurait peut-être été plus facile, parce que les mafias peut-être avaient autre chose à régler pendant ce temps. Mais enfin, on voit que 'Ndrangheta, notamment, a organisé un véritable massacre à Duisbourg, en août 2007, deux clans de San Luca, je crois, dans la Spromonte, étaient rivaux et ont réglé leur compte à Duisbourg, en Allemagne. 6 morts, je crois, mais au moins 6.
Oui, bien sûr. Mais ça, tout ça démontre une capacité d'enracinement dans un territoire étranger que seule la 'Ndrangheta a été capable, un degré que seule la 'Ndrangheta a été capable d'atteindre. C'est-à-dire que quand ils se sentent assez à l'aise pour perpétrer des crimes de sang dans des territoires qui ne sont pas leur territoire d'origine. Et c'est pour ça que la 'Ndrangheta répond à une logique de colonisation, c'est-à-dire qu'elle s'implante vraiment dans un nouveau territoire, elle y insère son identité mafieuse, son contrôle du territoire, et du coup elle se sent suffisamment chez elle, si vous voulez, pour réutiliser les règles archaïques de violence qui caractérisent son empreinte dans son emprise sur le territoire d'origine.
Alors aujourd'hui, 'Ndrangheta est considérée comme la mafia la plus puissante d'Italie et d'Europe, peut-être même du monde. Enfin, elle génère un chiffre d'affaires, selon les derniers chiffres, de 50 milliards d'euros par an, ce qui représente plus de 3% du PIB italien, c'est complètement fou. Est-ce qu'elle s'est alliée avec des cartels colombiens, par exemple? Comment a-t-elle fait pour avoir une telle puissance, 'Ndrangheta?
La 'Ndrangheta a bénéficié de la focalisation médiatique qu'il y a eu sur Cosa Nostra, donc la mafia sicilienne au début des années 90, puisque Cosa Nostra était clairement la mafia la plus puissante jusqu'aux assassinats des juges Falcone et Borsellino en 92. Et ensuite, beaucoup de mafieux ont été arrêtés, sont mis à collaborer avec la justice, justement grâce à la loi qu'avait fait passer le juge Falcone avant d'être assassiné.
D'où un certain Bruschetta. Le plus connu d'ailleurs.
Voilà. Mais Bouchette, il avait commencé même en 84 à collaborer avec Falcone. Mais on va dire que Cosa Nostra, qui était l'interlocuteur privilégié des cartels colombiens à cette époque-là, a perdu son prestige criminel, si vous voulez, à ce moment-là. Et la 'Ndrangheta est apparue comme une mafia beaucoup plus fiable, comme un interlocuteur beaucoup plus fiable au niveau international. Et du coup, elle a pu tisser des liens avec les cartels vénézuéliens, colombien, pour acheminer la cocaïne en Europe. Et clairement, maintenant en Europe, la 'Ndrangheta a pas le monopole, mais c'est la première mafia importatrice de cocaïne en Europe.
Justement, faisons un tour des mafias. Il y a 4 ans à Naples, j'ai vu sur la Grande Place, qui est un peu notre place de la République à Paris, des portraits, des centaines de portraits de victimes de la mafia, donc en l'occurrence la Camorra, la mafia de Campani, et avec sur les murs ces mots écrits « merda mafia »,« mafia merda ». Qu'est-ce que ça veut dire? La Camorra est tombée parce que la population en avait marre? Elle n'est pas tombée, mais elle s'est affaiblie aussi, la Camorra. Elle est plus qu'elle était des années 60 et 70.
Mais oui et peut-être. Non, c'est-à-dire
je pose la question. Non, mais j'affirme pas. Je pose la question. Ça peut être
non. Disons qu'elle a elle a grandi elle aussi par rapport à Cosa Nostra qui dominait clairement la 'Ndrangheta et la Camorra. Mais on peut pas non plus parler d'un rejet de la part de la population. Il y a une part de la population qui est de plus en plus mobilisée
et visible surtout. Voilà. C'est ce que je l'ai vu à Naples.
Voilà, mais ce qui change, c'est la visibilité de la mobilisation. Donc, vous me direz, vu que l'Omerta est une des
piliers de la mafia.
Oui, voilà, quelque chose qui lui sert à contrôler son territoire et à asseoir son influence. Effectivement, le fait qu'on dénonce la mafia sur la place publique, c'est déjà quelque chose de très important. Mais tout ça, c'est le résultat d'un mouvement citoyen énorme qui est né après les assassinats des juges Falcone et Borsellino en Sicile et qui s'est étendu sur tout le territoire italien.
Oui, c'était vraiment une rupture et un tournant dans cette histoire-là. Vous ne quittez surtout pas. On se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Sorry Angel, une version de Sorry Angel de Gainsbourg par Alex Baupin.
C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Je n'en valais pas la peine, tu sais. Sans moi, tu as décidé, un beau jour, décidé que tu t'en allais. Le conte avait commencé à rebours. Était-ce vertige, des veines, qui sait? Un voyage, un seul aller, au long cours, d'où l'on ne revient jamais. Moi, j'aurais tout essayé, mon amour. C'était vraiment pas la peine, je sais. Que c'était foutu d'avance, mon amour. Je n'ai ni remords, ni regrets. C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Moi qui t'ai ouvert les veines, je sais. Maintenant, tu es avec les anges, pour toujours. Pour toujours et à jamais.
On va continuer, si vous voulez bien, Charlotte Moge, notre petit tour des mafias. Donc, Cosa Nostra maintenant, après l'action des juges Falcone et Borsellino et tous ces repentis, où en est Cosa Nostra ?
Alors, Cosa Nostra est évidemment beaucoup plus affaiblie maintenant qu'elle ne l'était au début des années 90. En 1993, donc un an après, enfin quelques mois après les massacres des juges Falcone et Borsellino, c'est le capo dei capi, le chef suprême de Cosa Nostra qui a été arrêté, Totò Riina, et son bras droit qui ensuite a dirigé Cosa Nostra jusqu'en 2006, a été arrêté justement en 2006. Et maintenant, on estime, les autorités italiennes cherchent encore à mettre la main sur celui dont on suppose qu'il est le chef de Cosa Nostra. Mais au niveau organisationnel, il y a quand même une modification, c'est-à-dire que l'organisation est beaucoup moins pyramidale. Le contrôle du territoire reste encore très fort, mais le volume d'affaires généré est quand même inférieur, bien inférieur à celui qu'elle connaissait au début des années 90.
Totò Riina, qu'on surnommait la bête, mais qui avouait, je crois, un millier de crimes, dont quelques centaines de ses propres mains. Une quatrième, une quatrième organisation mafieuse dans les Pouilles, la Puglia, qui s'appelle Sacra Corona Unita. Quel est son pouvoir de nuisance et a-t-elle un vrai pouvoir de nuisance comme les autres?
Alors, la Sacra Corona Unita, c'est une organisation qui est beaucoup plus récente. C'est-à-dire que les trois mafias historiques dont on a parlé sont apparues au milieu du 19e siècle, alors que la Sacra Corona Unita est née dans les années 80 du 20e siècle. Donc, on est vraiment, c'est une organisation qui a été créée par mimétisme pour enrayer, on va dire, les affiliations de masse dans les prisons des Pouilles, à l'Andrangheta et à la Camorra. Donc, c'est quelqu'un qui a décidé de créer, de doter d'une structure, toute la délinquance dépouille, mais ça n'a pas marché puisqu'en fait maintenant la Sacra Corona Unita, elle est très désorganisée du point de vue, enfin c'est vraiment des clans qui sont répartis dans des villes, donc c'est vraiment pas comparable aux autres mafias. Maintenant son pouvoir de nuisance est réel, mais très localisé, oui. Très limité aux Pouilles.
Et à Foggia, qui est la troisième ville, voilà, troisième ville des Pouilles hein, après Bari et Tarente, où quelques commerçants ont été plus que menacés. Alors, on a connu l'Italie avec un pouvoir ou des hommes politiques parmi les plus grands qui avaient des accointances avec la mafia, la police qui en avait aussi. Est-ce que cette Italie-là existe encore ?
écoutez, cette Italie-là, oui, elle existe. Alors maintenant, il faut pas généraliser non plus. Le fait est que j'en reviens aux années 90, puisque c'est vraiment une époque charnière d'un point de vue, bon, de la lutte contre la mafia évidemment, mais surtout d'un point de vue politique, hein, puisque c'est le passage de la première à la deuxième République, pas d'un point de vue constitutionnel, mais parce qu'il y a eu un grand scandale de corruption qui a balayé tous les partis traditionnels qui étaient nés de la résistance. Et effectivement, Cosa Nostra a profité de cette période d'incertitude politique, de ce renouveau, pour tisser de nouveaux liens avec des représentants, et en particulier celui qui a été le condamné, hein, c'était le bras droit de Silvio Berlusconi, pour ne pas le nommer, Marcello Dell'Utri, dont le rôle de référent politique national a été attesté. Alors maintenant, Cosa Nostra, c'est vraiment la mafia qui a toujours privilégié les contacts avec la politique au niveau national. Par contre, la Camorra et la 'Ndrangheta en particulier privilégient le niveau local. Mmh. Donc, et elles réussissent, en particulier la 'Ndrangheta, à tisser des liens au niveau local, y compris dans les territoires qui ne sont pas, qui sont hors de la Calabre, et par exemple en Lombardie, dans le Piémont. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'affaires, on se rend compte, au niveau local, de représentants politiques, dont par exemple le maire de Reggio Emilia, hein, qui est allé faire campagne dans le petit village de Calabre d'où étaient originaires les membres de l'Andrina, qui opéraient dans sa ville en Émilie-Romagne. Mmh. Donc c'est vous dire le pouvoir de nuisance et le contrôle du territoire et donc le contrôle des votes que la 'Ndrangheta réussit à exercer même hors de son territoire d'origine.
Alors on se dit en conclusion que l'Italie qui a connu son miracle économique, hein, le fameux miracle économique italien années 60, années 70, a aussi connu les années de plomb qui lui ont coupé les ailes hein, quand même, a connu et connaît encore la mafia et son économie parallèle. Ça fait quand même deux sacrés pines dans le pied, des cailloux dans la chaussure d'un pays qui n'en est pas moins, malgré tout ça, la troisième économie de l'euro, la huitième puissance mondiale, d'où l'Italie tire-t-elle sa force pour avancer malgré ces obstacles-là?
Je pense que l'Italie a mine de rien, même si on en parle peu, une très grande vitalité sur du point de vue citoyen. Mmh. Et c'est vraiment ce qui a permis une forte capacité de résilience de la société. C'est ce qui lui a permis justement de dépasser ces phénomènes de violence politique, parce que les années de plomb c'était du terrorisme d'extrême gauche, on parle souvent de ça, mais aussi du terrorisme d'extrême droite, bien sûr, qui a fait 85% des victimes. Quand même, et la violence mafieuse qui s'applique, qui évidemment a décimé non seulement les forces de l'ordre, mais aussi beaucoup de victimes innocentes. Donc je dirais la capacité de résilience de la société.
D'accord. Merci infiniment. Tutto va bene. Grazie per
tutto. Tutto a posto. C'est moi
grazie
qui
per tutti. Arrivederci, grazie. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Léa Garofalo, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Bien sûr, la technique aujourd'hui, il y avait Louis Audebert.